lecture très connue, le psaume 23. C'est sûrement, je pense, le psaume préféré des chrétiens. Le psaume 23, il y a beaucoup de richesses et c'est d'un aspect particulier que nous allons parler ce soir. Et même si vous le connaissez, j'aimerais faire la lecture avec vous. Dans ces moments qui sont troublés, on peut se rappeler ce verset. Amen. C'est un peu fort, non? Non, c'est bon. Okay. J'ai pas l'habitude, à Avignon, vous savez, ça résonne, alors j'ai pas besoin de micro. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. C'est un psaume, mes frères et sœurs, que je vous avoue, j'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup parler de ce psaume parce qu'il y a énormément de richesses et parce qu'il nous instruit énormément aussi sur ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Et ce que j'aimerais parler en particulier ce soir, c'est parce qu'on me l'a souvent demandé, on m'a dit, Jonathan, ne comprends pas ce verset qui dit « Tu dresses une table devant moi » en face de mes adversaires. Et j'aimerais voir ensemble ce soir ce que cela signifie, quelques aspects en ce qui concerne ce que David a écrit à ce moment-là. Mais voyez-vous, quand il dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires », ça nous fait de suite penser, quand on dit « table », on pense au repas. Et le repas est un moment extrêmement important dans la parole de Dieu. C'est un moment, le repas, où il va y avoir un échange, il va y avoir une communion. Et quand le Seigneur, là, parle de table ou parle de repas, c'est toujours une invitation, voyez-vous, au partage. C'est toujours une invitation à la communion. C'est toujours une invitation à mettre en accord, à concilier. Et quand on dit communion, il y a l'idée aussi, mes frères et sœurs, quelque chose de très important, une invitation autour du repas, c'est aussi une invitation à la réconciliation, c'est aussi une invitation à l'amitié, et c'est ce que le Seigneur veut faire. Voyez-vous, certains commentateurs, si vous avez des Bibles d'études, vous pouvez lire cela, disent que d'une certaine manière, quand David dresse, en tout cas cette table, quand Dieu dresse cette table devant David en face de ses adversaires, c'est par provocation, c'est pour dire « Regardez, je ne manquerai de rien ». Et c'est vrai que nous ne manquons de rien. Et si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Ça, c'est une vérité. Mais je crois que David, comme le dit la parole de Dieu, est un homme selon le cœur de Dieu. Et en tant que ça, en tant que cela, en tant qu'il ait un cœur attaché à Dieu, je crois qu'il y a une véritable invitation. C'est Dieu lui-même qui dresse la table. C'est Dieu lui-même qui met la table devant. Il y en a une invitation. Et ce soir, je vous le dis, nous sommes tous invités à la table du Seigneur. Un jour, il y aura un grand festin. Il ne faut pas le manquer, celui-là. Hein? Il faut y aller. Et c'est ce que nous voulons. Mais en attendant, le Seigneur nous invite également à nous approcher de lui. Parce que quand David dit cela, lui qui est l'homme selon le cœur de Dieu, où il a même écrit des versets, des psaumes plutôt, avec une teneur particulière concernant la venue du Messie, concernant Jésus, ça nous rappelle, nous sommes invités. Ce que dit Jésus, celui qui vient à moi, il n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voilà l'invitation pour chacun de nous, quel que soit, je dirais, l'expérience que nous avons avec Dieu, quel que soit l'âge que nous avons, quel que soit le parcours que nous avons avec Dieu, l'étiquette que nous avons avec Dieu, même si on est pasteur, nous avons besoin de nous approcher de la table de Dieu, même si nous sommes anciens, nous avons besoin de nous approcher de la table du Seigneur, parce qu'il est le seul capable de nourrir notre cœur et nos âmes. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Il y a là cette invitation.
très importante, cette idée qui est transmise au travers du psaume 23. Voyez-vous, si on pense au repas, sûrement vous avez déjà commencé dans votre tête à penser à certains repas qu'il peut y avoir autour de la parole de Dieu. Mais il y a, pour appuyer et pour montrer combien la communion est importante avec notre Jésus, et c'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut qu'on se débarrasse de toutes les autres choses et qu'on ait une véritable communion avec lui, qu'on cherche sa face. Et nous le trouvons, ce passage, dans l'église que vous connaissez, l'église de Laodicée. Voyez-vous, il y a bien évidemment dans cette église de nombreux problèmes, peut-être une des églises où le Seigneur fait le plus de reproches. Mais il y a toujours cette invitation qui est là. Les membres de cette église, vous le savez, ils sont ni froids ni bouillants, ils sont tièdes. Puisses-tu être froid ou puisses-tu être bouillant, vaut mieux être bouillant hein, que froid. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu, notre Père, n'aime pas la tiédeur. Il veut véritablement qu'on puisse retrouver un cœur bouillant pour lui. Ce n'est pas forcément pour nous, mais c'est ce que le Seigneur veut, en tout cas pour chacun des chrétiens, chacun de ses enfants qui s'est éloigné de lui. Voyez-vous, cette invitation, elle est là, est faite à cette église de Laodicée, où il est dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui et lui avec moi. On va tous souper ce soir. Peut-être pas de la soupe, c'est vrai. C'est pas la saison encore, en tout cas pas dans notre région. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur veut souper avec nous. Est-ce que nous avons envie de souper avec Jésus? Je crois que c'est notre désir à chacun. Mais ce que cela veut dire, et regardez, de la même manière où dans le psaume 23, c'est Dieu qui prend l'initiative de mettre une table entre David et ses adversaires, afin d'inviter ses adversaires autour d'une table, les adversaires de David. Là même, c'est Jésus qui prend l'initiative d'inviter. C'est Jésus qui frappe à la porte et qui prend cette initiative de dire, voyez-vous, ce que je veux, c'est la réconciliation avec cette église. Cette église qui avait tellement besoin de Dieu, tellement besoin de Jésus, elle qui pensait que sa communion avec Dieu était à son apogée, était au beau fixe, était quelque chose de très fort. Vous savez, il disait, et vous le connaissez bien ce passage, « Parce que tu dis que tu es riche, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas. » Et ça, c'est fort. C'est ce que Jésus dit, « Tu dis que, mais tu ne sais pas que. » Et dit, « Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Le Seigneur ne force pas la porte, il ne démonte pas la porte, il toque à la porte, il frappe à la porte. Il y a cette invitation à un moment de partage, cette invitation à un moment d'amitié, à un moment où un accord doit être retrouvé, à un moment où il y a cette communion qui est extrêmement importante. Oui, mes frères et sœurs, ce que Jésus veut, c'est un moment d'amitié avec nous. Amen. Regardez ce que dit Jean 15. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Nous avons le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, qui nous révèle ce que Jésus lui-même a reçu. Il prend de ce qui est à Jésus, il nous le révèle au fond de notre cœur. Nous connaissons ce que Dieu veut faire. Et qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu use de patience, voulant que tous parviennent à la repentance. Alors oui, les temps sont compliqués. Mais il y a cette invitation où Jésus veut et il nous considère comme ses amis. Mais il faut faire attention avec cette image, parce que cette image aujourd'hui est biaisée. C'est vrai que souvent, et nous pouvons l'entendre, et cela n'est pas bon non plus, quand on dit « Jésus, c'est mon copain ». Déjà entendu cela, hein? Vous savez, un copain, ça va, ça vient. Et selon les circonstances, bonnes ou pas, soit on l'aime, et la semaine d'après, on ne l'aime plus, il nous casse un petit peu trop les pieds. Hein? Mais un ami, lui, il est là tout le temps, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et si vous relisez les proverbes, nombreux sont les textes qui concernent l'ami que nous avons trouvé qui est peut-être mieux qu'un frère. Et voyez-vous, c'est combien important, parce que ce que Jésus veut, c'est cette relation d'amitié, non pas que l'on soit son copain. Et je dirais dans la région dans laquelle vous êtes, ce mot collègue, hein, on dit peu copain, mais ici je sais qu'on dit collègue. Et Jésus, c'est pas notre collègue. Mais ce que Jésus veut, c'est une véritable relation d'amitié. Et un ami, il préférera toujours dire la vérité. Toujours. Regardez bien ce que je vais vous dire par là. Vous savez, le mot copain, il y a deux mots. Il y a cum et panis. Je ne fais pas de théorie hein, ce soir. Mais ça veut dire quoi? Dans copain, il y a avec pain. Vous savez ce que ça signifie? Le véritable copain, c'est celui avec qui on partage le pain. Et ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous, c'est qu'on puisse partager le pain. Et c'est ce que le Seigneur veut que l'on fasse, c'est celui qui vit. Jésus veut partager le pain avec nous. Il est lui-même le pain de vie. Et c'est ce que David voulait illustrer. En face de ses ennemis, il proposait le partage du pain. Parce que le repas, le partage du pain, ça concrétise la réconciliation, ça concrétise un accord trouvé, ça concrétise, je dirais, une proximité, une amitié, et c'est ce qu'il voulait faire. Souvenez-vous bien de Saül ou de Saul. Vous savez que Saul a pourchassé David. David a dit, suis un chien pour que tu me poursuives comme cela. Combien de fois David a eu l'occasion de mettre la main sur Saul, de mettre la main sur Saül. De même les hommes forts de David, au bout d'un moment, ils ont dit, regarde, c'est Dieu qui te le livre. Il est dans la grotte. Il n'a pas voulu le faire. Pourquoi? Parce qu'il a toujours cru, David, que Saül se repentirait, qu'il reviendrait, qu'il changerait. Il y avait toujours cette invitation-là. Il n'a pas voulu mettre la main sur Saül. Il a laissé Dieu faire. On sait que le cœur de Saül s'est endurci. Mais David, lui, était toujours dans l'espérance qu'il y ait un changement. Il faut toujours espérer cela. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, qu'autour de la parole de Dieu, autour du repas plutôt, c'est le théâtre, le repas de grandes décisions qui ont été prises. Il y a des choses essentielles qui se passent autour du repas. Vous savez, si vous relisez ce qui s'est passé avec Aman et Esther, si vous lisez ce qui s'est passé avec Joseph et ses frères, si vous lisez ce qui s'est passé même avec Judas et Jésus, vous voyez que c'est toujours autour du repas. Il y a toujours quelque chose d'essentiel qui va se passer. Des fois, c'est une marque de séparation. Des fois, c'est aussi des retrouvailles. Des retrouvailles comme le fils prodigue avec son père qui est scellé par quoi? Par un repas qui est synonyme de communion retrouvée. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Et c'est ce que David lui-même a fait quand il y avait un accord qui était là, quand il y avait une alliance qui était faite avec quelqu'un. C'était fait et c'était autour d'un repas. C'est pas ce qu'il a fait avec Mephibosheth. Il l'a invité à sa table, la communion retrouvée. Et c'est ce qu'il voulait, il était en accord avec Mephibosheth, quel que soit le passé, quel que soit ce qui s'est passé. Et c'est toujours ce que Dieu veut faire. Il y a toujours cette invitation qui est là. Et le Seigneur veut, et au travers de la parole, on va prendre un exemple en particulier d'un repas qui s'est passé, que vous connaissez très bien. Un homme de Dieu remarquable, vous connaissez, c'est Pierre. Vous savez, le nombre de repas que Pierre a partagé avec Jésus, il y en a eu beaucoup. Mais au bout d'un moment, il y a un repas qui est très important. Parce qu'autour de ce repas, Jésus va régler ce qui doit être réglé. Il y a des choses qui doivent être réglées et c'est autour du repas, c'est cette invitation, même avant de reprendre le repas, pour montrer qu'entre Pierre et Jésus, s'était passé quelque chose et que cette chose qui s'était passée devait être mise à plat et devait être réglé. Et vous connaissez ce qui s'est passé. Vous savez, mais avant de ce repas où il y a eu la restauration de Pierre, la réconciliation de Jésus et de Pierre, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Il y a eu un repas juste avant. Un repas où Jésus a annoncé sa mort, où Jésus a annoncé qu'il allait passer sur le bois. Il a annoncé qu'il allait mourir à la croix. Et vous savez la réaction que Pierre a eue. Pierre a même repris Jésus, la parole de Dieu nous le dit, et même au bout d'un moment, il va voir Jésus et dit, mais tu sais, moi, je donnerai ma vie pour toi. On donnerait notre vie pour Jésus, non? Amen. Combien s'il y avait la persécution, j'espère que tous, on peut dire, je donnerai ma vie. Ça, c'est chacun pour soi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Pierre, il va même plus loin, ça c'est dans Jean 13, vous pouvez le relire. Mais dans Matthieu, au bout d'un moment, il va me dire, même si les autres t'abandonnent, moi, Pierre, je t'abandonne pas. Ah ouais? Je paraphrase, bien sûr, mes frères et sœurs. Jésus va dire, tu m'abandonneras pas? Tu donnerais ta vie pour moi? Regardez ce qu'il dit, en vérité, je te le dis. Le coq ne chantera pas que tu m'auras rogné trois fois. Oh, Pierre était surpris parce qu'il était sûr dans son cœur qu'il irait jusqu'au bout. Et on sait ce qui s'est passé. Jésus a été trahi. Il a été amené. Pierre a coupé l'oreille et Jésus a guéri la personne dont l'oreille était coupée. Il y a eu un miracle, mais Jésus a été emmené. Il a été emmené dans la maison de Caïphe. Et dans la maison de Caïphe, c'était une grande cour. Et voyez-vous, Pierre était de loin. Il regardait ce qui se passait avec Jésus. Sauf qu'il y a une femme qui reconnaît qui il est. Et dit, mais toi, tu étais avec Jésus. Ah non, non, non. J'étais pas avec Jésus. Et une deuxième fois, tu étais avec Jésus. Non, je n'étais pas avec Jésus. Je ne connais pas cet homme. Qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Ironie, mais il ment. Ironie, il ment. Mais qu'est-ce qui se passe, Pierre? Tu ne venais pas de dire que tu irais jusqu'au bout. Et voyez-vous, troisième fois, il y a des hommes qui viennent. Ces femmes vont chercher des hommes. Tiens, regardez, il était avec Jésus. Et là, Pierre va renier Jésus d'une manière incroyable. Il va y avoir un regard qui va se faire entre Jésus et Pierre. Et Pierre va être cassé, il va être brisé, il va repartir, touché par ce qui s'était passé, il va y avoir la croix, il va reprendre son activité de pêcheur. Et oui, Jésus est mort, mais bien plus, il est... Alléluia. Vous savez, Jésus va venir les voir, même s'ils n'ont pas cru au témoignage de Marie de Magdala et des autres. Mais Jésus va commencer à préparer un repas au bord du lac. Alors qu'ils étaient en train de pêcher. Il va y avoir la pêche miraculeuse, une deuxième pêche miraculeuse. Quelque chose de fort. T'es en train de préparer un feu. T'es en train de préparer un moment de réconciliation. Un moment de communion. Et au bout d'un moment, Pierre va le reconnaître. Vous connaissez ce passage, il va sortir de l'eau. Et avant même de commencer ce repas, le Seigneur va lui poser cette question. Pierre, m'aimes-tu plus que les autres ? Je crois que si le Seigneur Jésus a dit ça, ce n'était pas anodin. Mais c'est parce qu'il voulait rappeler à Pierre ce qu'il avait dit. Pierre, tu te souviens? Quand tu as dit que même si tous t'abandonneraient, toi tu ne m'abandonnerais pas. Alors est-ce que tu es sûr, Pierre, de m'aimer plus que les autres? Est-ce que tu es sûr, toi, d'être dans ce que tu crois être? Et voyez-vous, il y a quelque chose d'important. Trois reniements pour trois oui. Comme si Pierre devait faire face à ces trois reniements. Il y a quelque chose qui devait être réglé. Pierre, m'aimes-tu une première fois? Oui, tu sais, Seigneur, que je t'aime une deuxième fois, puis une troisième fois. Et on sait que Pierre va être touché la troisième fois parce qu'il comprend. Et dit, mais Seigneur, tu sais mieux que moi-même si je t'aime. La réconciliation est faite. Il y a la restauration. Et à partir de ce moment-là, relisez bien le passage. Ils vont commencer à manger ensemble le repas. Vous savez, la restauration de corps. Elle est synonyme dans la parole de Dieu de restauration de l'âme, de restauration de cœur, ce que nous avons besoin. Parce que le mot restaurer, ça signifie rebâtir, réparer, refaire, reprendre, renouveler, remettre en ordre. Et c'est ce que le Seigneur veut faire auprès de lui. Quand il nous attire à lui dans la communion, ce qu'il veut, c'est remettre de l'ordre dans nos vies, c'est remettre et rebâtir ce qui a été cassé, ce qui a été détruit. Oui, vous pouvez, nous pouvons être comme Pierre, avoir peut-être manqué, avoir peut-être fauté. Nous pouvons être éloignés de Jésus, se cachant derrière peut-être d'anciennes activités comme Pierre le faisait. Mais ce qui est sûr, c'est que la table, elle est là. Ce qui est sûr, c'est que le Seigneur nous invite ce soir. Est-ce que nous allons répondre cette semaine ? À la demande de Jésus, dit « Viens manger avec moi, viens souper avec moi. » Et c'est ce que Pierre veut faire et c'est ce que Pierre a fait. Et on sait ce que Pierre a fait après aussi, quand il a été renouvelé, mais aussi les autres apôtres. Vous savez, Pierre avait besoin d'apprendre beaucoup de choses encore. Parce que quand on lit les actes, après la restauration de Pierre, on se rend compte que le Seigneur Jésus avait un plan important. C'était que le mur de séparation est tombé entre les juifs et les païens, et que le salut, il est pour tous, que tous peuvent accepter Jésus comme leur sauveur et leur seigneur. Quelque chose d'important. Sauf que Pierre, il est juif. Et vous savez, dans Acte 10, ce qui va se passer, il va se passer que Pierre a eu faim, il va avoir là une vision, Dieu va lui parler, il va tomber en extase, comme la parole de Dieu le dit, Dieu va lui parler, il va dire, tu vas manger de ces aliments, il dit, non, je ne mange pas de ces aliments, sinon je vais me souiller. Le Seigneur, il va dire, non, ça concernait bien évidemment ce qui allait se passer dans la maison de Corneille. Et bon, pour passer sur l'histoire, on sait que Il va aller dans la maison de Corneille après cette vision. Et qu'est-ce qu'il va dire à Corneille ? Corneille qui n'est pas juif. On sait que pour lui, c'est interdit de rentrer dans la maison d'un païen ou d'un gentil. C'était interdit de manger avec lui selon la loi. Mais voici ce qu'il dit. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à regarder aucun homme comme souillé et impur. » Et là, il a pris une grande leçon. Parce qu'il a appris que le salut est pour tous et que le sacrifice de Jésus à la croix, le pardon des péchés, c'est pas que pour le peuple juif, c'est pour tout le monde. Eh oui, mes frères et sœurs, on peut venir auprès de Dieu pour le pardon de nos péchés. On peut s'approcher encore de Jésus, toujours, et c'est ce que Pierre a enseigné à Corneille et aux autres, et ceux qui étaient dans la maison ce jour-là. Et vous savez, la loi de Moïse, elle interdisait à un juif de se lier, de rentrer dans une maison comme cela. Mais le Seigneur, il est venu et il a montré le chemin, il a montré la voie. Et Pierre l'a appris, il avait compris cela. Et voyez-vous, il y a cette idée de communion. Mais mes frères et sœurs, la communion, c'est aussi fraternel. C'est avec Jésus, mais c'est aussi dans le corps. Et Pierre, il a appris qu'il faut qu'il regarde son frère, même si pour lui, il avait des a priori, des barrières. Il dit, mais ça, c'est ton frère aussi. Tu vois, ce païen, comme tu l'appelles, mais ce païen qui a donné sa vie à Christ, ben c'est ton frère. Et voyez-vous, ce jour-là, quand il a commencé à parler de Dieu dans la maison de Corneille, il y a eu beaucoup de personnes. Acte 10, 48. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur parce qu'il y a eu beaucoup de convertis. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Et ces quelques jours, quand il accepte de rester là, Pierre, c'est pour montrer qu'il les considère comme ses frères. Il y a une communion qui est établie, qui est gagnée. Des liens fraternels, d'amitié, frères en Christ. Ils partagent le pain. Ils ont été gagnés. Il y a quelque chose d'établi qui s'est fait. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre de Christ à la croix. L'œuvre de réconciliation. Vous savez, une des missions qui nous est tous confiée. Un frère le disait dans sa prière, « Seigneur, place-nous là où tu veux que l'on soit. » On n'aura pas tous le même rôle. Mais ça nous concerne tous. 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la... Merci. De la réconciliation, de la conciliation, de la communion. Pierre, il avait pris ça de Dieu. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Et le Seigneur dressera toujours une table comme cela, cette invitation. Mais voyez-vous, c'est pas parce qu'on sait tout ça, et vous le savez, hein, je vous ai rien appris. Je vous ai rien appris, je le sais. Mais c'est pas parce qu'on sait qu'on fait. Et des fois, c'est difficile. Et des fois, il peut y avoir des choses qui font que, non, ça va pas le faire. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Je sais ce que la parole de Dieu enseigne. Mais j'arrive pas. Et c'est ce qui s'est passé exactement pour Pierre. Pierre, Dieu lui a appris. Et pourtant, on apprend quelque chose d'important. Dans l'Épître aux Galates, c'est Paul qui parle. Et Paul, il va dire, j'ai dû tenir tête à Pierre. J'ai dû faire face à Pierre parce que j'étais pas d'accord avec lui. Parce que là, il y a eu un désaccord au niveau de l'évangile. Il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Je lis le texte pour vous. Galates 2, à partir du verset 11, il est dit, « Mais lorsque Pierre vint à Antioche, c'est Paul qui parle, vient à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangea avec les païens convertis. Et quand ils furent venus, il s'esquiva, se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui et les autres juifs, ils usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leurs hypocrisies. Voyant qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Pierre, en présence de tous, et après on va s'arrêter, parce qu'il va y avoir les explications de ce que Pierre exactement a fait. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, je vais vous le résumer, c'est que Pierre lui dit lui-même, Dieu fait exception de personne. Il va le dire dans la maison de Corneille. Il va dire, Dieu m'a appris. Oui, que je peux venir et que vous êtes mes frères. Je vous considère comme on peut partager le pain ensemble. Et c'est ce qu'il va faire. Il va manger avec des frères à Antioche. À Antioche, il n'y a pas beaucoup de juifs. Il y a beaucoup de païens qui se sont convertis. Et il mange avec eux. Mais va se passer qu'il y a des frères de l'église de Jacques qui vont venir, qui ont été envoyés par Jacques. Et vous savez, Jacques, de quelle église il vient ? De Jérusalem. Eh oui. Et à Jérusalem, il y a beaucoup de Juifs qui se sont convertis, mais qui n'ont pas appris que le mur de séparation était tombé. Et Pierre, quand il va voir cela, et qu'il va voir en fait que ce problème de communion autour du repas est quelque chose qui n'est pas réglé dans le corps de Christ, eh bien, il va essayer d'user un petit peu de stratégie pour essayer d'être en accord avec les deux. Alors, quand ils sont là, il ne va pas manger avec eux. Quand ils ne sont pas là, il va manger avec eux. Sauf qu'il y avait Paul. Hein. Et Paul, c'est Paul. Vous connaissez très bien le personnage. On connaît son caractère. On connaît aussi son amour pour l'Évangile. C'était un sujet qui était sensible, cela. La communion autour du repas. Parce que Pierre, si lui, il était convaincu que le mur de séparation était tombé, ceux qui venaient de l'église de Jacques, il n'était pas. Et la loi, elle était toujours en vigueur. Il dit non, ah oui, peut-être qu'il est converti, mais ce n'est pas mon frère. Je n'ai pas de lien avec lui. Je n'ai pas de communion avec lui. La loi, elle était pour eux encore en vigueur, alors que ce n'était pas le cas. Et voyez-vous, la Bible le dit, et c'est Paul qui parle. Il dit, il a fait preuve de dissimulation, à tel point que même Barnabas s'est fait entraîner. Des fois, on se fait entraîner comme ça, on ne sait pas pourquoi. Même Barnabas, mais Barnabas, ce n'est pas n'importe qui, hein, non plus. Vous relirez. Il a eu le courage d'aller voir Paul, hein, selon l'ordre de Dieu. C'était un homme courageux qui est allé voir des églises nombreuses. Il a fait un vrai travail pour le Seigneur. Mais voyez-vous, quelque chose qui est là, et Paul, je le dis, je le redis, mais il n'a pas le caractère de Pierre. Paul, il n'a pas la crainte. Vous savez, c'est dit, hein. Pierre, il a eu la crainte de ceux qui venaient de Jérusalem. Il a eu la crainte, il a eu peur. Et parce qu'il a eu peur, il n'a pas voulu affronter les problèmes. Il a préféré dissimuler. Je dissimule, je cache, on réglera ça après. Sauf que Paul, il a vu. Et Paul, il est allé de front devant tous, il est dit. Il a pris tout le monde, devant tout le monde. Il dira, mais qu'est-ce que tu fais, Pierre ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que dit l'Évangile ? Tu sais pas qu'en faisant cela, en mangeant avec tes frères qui se sont convertis païens, et que ne mangeant plus avec eux, tu t'opposes à ce que Jésus lui-même il enseigne ? Tu t'opposes et tu offenses la parole de Dieu ? Tu offenses l'Évangile ? Non, je ne vais pas te parler en privé, je parle devant tout le monde. C'est ce que Paul y fait. Tu en règles le problème parce que ça doit être réglé. Le mur de séparation, il est tombé. C'est tellement triste et je vous le dis, parce que c'est une réalité, mes frères et sœurs. Ou même encore aujourd'hui, on est confronté à même du racisme auprès de frères. Oui, ça existe encore. Il dit un tel, il est de telle région, un tel, il est de tel pays, un tel, il vient de là. C'est fini avec ça. Plus question de culture, plus question d'endroit d'où on vient. Nous faisons exception de personne. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait un lien fraternel et de communion sincère. Alléluia. Et combien même il y aurait des choses à régler. Il faut les régler. C'est ce que la parole de Dieu enseigne au travers de ce passage. Paul, il a eu le courage de régler. Je ne dis pas ça pour vous, je vous le dis, par rapport à la situation que vous vivez à Aubagne. Je vais vous dire même sincèrement, je ne sais pas ce que vous vivez à Aubagne, parce que je ne sais pas et on n'est pas venu me dire. Mais je vois juste que vous souffrez. Moi, je vous dépose simplement ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et regardez bien quelque chose. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on retrouve la communion avec lui. Parce que quand on retrouvera la communion avec lui, le corps, il ira de l'avant. Quand on ne sait pas quoi faire, c'est vers Jésus qu'il faut aller. Il est la tête. Je prends un dernier exemple, parce que je ne veux pas être trop long. Prenez la Seine-Seine, hein, l'église. C'est pas un piège. Hein. Combien de fois on a lu ce texte ? 1 Corinthiens 11, 28. Vous avez sûrement entendu des frères le lire. 1 Corinthiens 11, 28, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Vous savez, ce texte, il est important. Et souvent, on s'arrête sur le fait de s'examiner soi-même. Je vais vous dire ce qu'on fait. Je l'ai fait pendant des années parce que je n'ai pas compris le texte. Seigneur, je m'examine. Lundi, ça va. J'étais bien. Mardi, ça va. Mercredi, je suis à côté de la plaque. Jeudi, ça n'allait pas du tout. Heureusement, vendredi, j'avais la réunion de prière. Pour samedi, j'avais la réunion de jeunesse. Ça s'est bien passé. Oui. On s'examine un petit peu, comme cela. Je dis, Seigneur, je ne sais pas, mais on est tous sur le chemin de la sanctification. Tous. Sanctification de la chair et de l'esprit. Je vais vous dire, ce repas, en vérité, je ne le mérite pas. Ce n'est pas un repas de mérite, mes frères et sœurs. Je peux avoir vécu une semaine catastrophique et je peux m'approcher de la parole, de la table du Seigneur. En sachant où j'en suis avec le Seigneur. C'est ça que ça veut dire. C'est important de s'examiner soi-même. De dire, Seigneur, je vais encore continuer, je vais aller de l'avant avec toi. Je t'appartiens. Je veux changer. Change mon cœur. Transforme mon cœur. La Bible, elle dit que celui qui dit qu'il est sans péché, il fait Dieu menteur. Oui, nous sommes tous des pécheurs, mes frères et sœurs. Il y a tous du péché dans nos vies. C'est pas méritoire. Parce que si c'était méritoire, il n'y en a aucun de nous qui prendrait ce repas. Et on prendrait tous un jugement contre nous-mêmes dans ce cas-là. Si je regardais à ma propre vie, il faut que je regarde à l'œuvre de la croix. Il faut que je regarde à ce que Christ a fait. Ça, c'est important. Alors oui, je m'examine. C'est-à-dire, je veux avancer avec toi. Mais la parole de Dieu dit aussi quelque chose d'important. Celui qui prend le repas sans discerner le corps de Christ prend un jugement contre lui-même. Et voyez-vous, trop souvent dans les églises, on a pris ce repas à la Sainte-Seine comme un rite religieux chrétien, sans vraiment discerner le corps de Christ. Et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse comprendre ce qu'il nous appelle à vivre. Oui, mes frères et sœurs, il y a des choses que Dieu veut nous faire vivre, mais il veut qu'on règle certaines choses avec lui-même, en discernant son corps, parce que Christ, c'est la tête. Je règle les choses avec le Seigneur, oui. Mais il faut aussi que je puisse discerner le corps de Christ. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, si j'ai quitté les ADD, vous savez, maintenant, depuis un moment, c'est parce qu'il n'y avait plus véritablement de communion. Il n'y avait plus, je dirais, d'accord. Il n'y avait plus d'échange. Il y avait plusieurs églises dans l'église. Chacun pensait comme il voulait. Mais voyez-vous, ce qui est important et ce que Dieu veut préserver, mes frères et sœurs, c'est très important. Il veut préserver l'amour et la paix au sein du corps de Christ. Et ce que Dieu nous appelle à faire, quand il dit « examinez-vous-même », c'est qu'on s'examine soi-même vis-à-vis du corps de Christ. Est-ce que moi, je n'ai pas commis une erreur? Est-ce que moi, je n'ai pas blessé un frère? Est-ce que moi, je n'ai pas blessé une sœur? Et le Seigneur il nous dit, si c'est le cas, pose ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ta sœur et prends le repas. Parce que si tu prends le repas sans discerner, sans faire cela, tu prends un jugement contre toi-même. C'est ça que ça signifie. Et si tout le monde faisait ça, mes frères et sœurs, c'est pas moraliste ce que je dis, hein. La vérité. Et un ami, il dit la vérité. Et voyez-vous, pourquoi je vous dis ça? Parce que, pourquoi il y a un besoin de réconciliation et de communion? Eh bien, parce qu'on est des hommes. Et qu'entre nous, ben, il y a des disputes. Et qu'entre nous, il y a des querelles. Et que ça sera inévitable. Mais ce qu'il faut et ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est de faire tout ce qui est en notre possible pour entretenir un lien de paix, tant que cela dépend de nous. Mais ça veut dire que moi, vis-à-vis de Dieu, je me suis examiné, Seigneur. Je suis allé voir les frères, j'ai essayé de parler avec les frères, j'ai essayé de réconcilier avec les sœurs. S'ils veulent pas, ils veulent pas. Mais moi, vis-à-vis de Dieu, je suis au clair. Je peux prendre mon repas dans la communion fraternelle. Et c'est important de le faire, mes frères et sœurs. Parce que c'est ce que ce texte dit. Si tu fais ça, sans discerner le corps de Christ, tu prends un jugement contre toi-même. Et pas par rapport à tes mérites. Regardez, je finis avec ça. Matthieu 5, 23, 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, c'est même pas que tu as quelque chose contre ton frère, mais que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te... Merci. C'est important parce que c'est l'idée du psaume 23. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Important. Ce que Dieu veut, c'est des liens sincères, d'amour, de pardon, de communion, de réconciliation, tant que cela dépendra de nous. Je vous ai dit, je ne connais pas la situation à Avignon. Aubagne, excusez-moi. Mais moi, je vous dépose ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et voyez-vous, tant que cela dépend de nous, il faut qu'on fasse le premier pas. Même si c'est mon frère qui a quelque chose contre moi, c'est moi, je vais voir mon frère. Ça, c'est pas évident. Hein. Non ? Je vous dis, c'est pas qu'ici, c'est de partout. Hein. On a les mêmes problèmes à Avignon. Ah oui, mais c'est lui qui... Je vais voir mon frère, je règle. Parce que je vais être au clair. Par rapport à Dieu. Par rapport à Christ. Et ça, c'est important de pouvoir le réaliser. Parce que c'est ce que Dieu veut dans son corps. Et regardez, je relis exprès. Matthieu 5, 24, 25, je fais exprès de le relire. Laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Verset 25, juste après. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Et bien, ça rejoint l'idée où Dieu met une table devant David, en face de ses adversaires, qui est un appel à la réconciliation, qui est un appel au pardon, qui est un appel à reconstruire. C'est ce que Jésus veut faire. Savez que Dieu préfère, mes frères et sœurs, exercer son pardon, exercer sa miséricorde, qu'exercer ses jugements. Oui, un jour les jugements de Dieu vont tomber sur le monde, on le voit, ça va bientôt arriver. Mais il préfère, en attendant encore aujourd'hui, que même en face de nos adversaires, même ceux qui se disent ennemis, eh bien, on puisse dresser cette table et être capable d'être ceux qui invitent des personnes à dire « Venez à Christ, il y a un grand repas à prendre maintenant. Réconcilie-toi avec ton Sauveur. Réconcilie-toi avec ton Jésus. » C'est au-delà de l'Église, c'est la mission que le Seigneur nous laisse. C'est là et c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Il dit « Occupez-vous de ceux qui sont dehors. Dressez cette table, elle est dressée. » C'est important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme ça a été dit dans les prières, qui cherchent Dieu. Je vous le garantis. Incroyable ce que les jeunes sont en train de vivre. Incroyable. Priez pour la jeunesse. Parce que je peux vous dire qu'il y a l'odeur d'un réveil qui est en train de se produire. Parce que les jeunes ont faim et soif de revenir à la véritable, au véritable évangile. Véritable communion avec Jésus. Il y a des jeunes qui ne connaissent rien, qui se convertissent. On n'a rien fait, juste parce qu'ils se sont tournés vers Jésus. Dieu est en train de faire une œuvre. Et c'est de cela, mes frères et sœurs, qu'il faut s'occuper aussi et particulièrement. Alléluia. Alors oui, il dresse une table devant nous. Dieu fait triompher ses amis devant les ennemis. Nous sommes les amis de Dieu, non ? Si vous faites ce que je vous commande, eh bien, il nous dit, cette table, elle est là. Quoi qu'il arrive, on est triomphant. Parce que à la croix, Jésus a tout remporté. Amen. Chacun de nous, mes frères et sœurs, on puisse se poser la question et je vous garantis que je me pose cette question souvent. Seigneur, je te connais. Mais est-ce que toi, tu me connais ? Est-ce que toi, Seigneur, tu me reconnais ? Est-ce que je suis dans tes plans, dans ta volonté ? Eh bien, vous savez où c'est que le Seigneur va nous répondre ? À savoir où on en est chacun d'entre nous ? C'est autour du repas que l'on va passer avec lui. Seigneur Jésus,